L'institut de Gaspard, homme religieux et plein d'âme, put voir à plein la naissance intellectuelle de son élève. Gaspard était essentiellement bon. Les soins de cet homme et de sa famille ne pouvaient manquer leur effet sur son cœur. Il s'était pris d'amitié pour les enfants. Leur douceur, leur petite félicité, leur soumission filiale étaient un spectacle qui renfermait sa leçon, et Gaspard le comprit avant qu'on songeât à l'exprimer. L'idée d'union fraternelle, d'esprit de famille, de beauté morale, fut bientôt présente à Gaspard. Elle ressortait de tout ce qu'il voyait. Son attention avait d'abord été toute matérielle, tant qu'elle s'était bornée à son joujou. Elle était devenue faiblement raisonnée lorsqu'elle eut atteint l'ordre, la marche, l'accord des objets qu'il rapportait à un seul. Elle fut enfin morale à partir du moment où son cœur parla, où il entrevit le concours de toutes ces âmes qui, vivant d'une même vie, se donnant l'une à l'autre, se répandaient à plein bord en secours mutuel, en échange de joie et de peine, en douce et pacifique vertu. L'instruction commence par l'intelligence, l'éducation commence par le cœur. Né pour commander comme pour obéir, l'homme a besoin d'aimer l'homme pour régner sans tyrannie, pour servir sans esclavage, pour maintenir ou atteindre son rang social, moins par l'idée que par le sentiment de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il n'est pas. Gaspard eut le bonheur d'être traité sur ce pied-là. Le respect, la reconnaissance lui tinrent lieu des pensées qu'il n'avait pas encore. Des mœurs simples et intéressantes, beaucoup d'oubli de soi-même, le soin même de négliger paternellement cet enfant d'adoption, telles étaient les principales chances de succès dans cette grande entreprise. Gaspard se laissait aller à sentir et, quand cela lui prenait, il souriait, il s'attendrissait, il écoutait, âme contre âme, les bienfaisantes vérités qu'on réservait pour lui. Dans cette méthode assez peu usitée du reste, on retrouverait celle des mères. Savantes dans le vrai, puisqu'elles aiment puissamment, souveraines dans leur action en vertu même de leur esprit de dépendance, les femmes, quand elles n'ont pas perdu trop de qualités à acquérir celles qu'on leur impose, les femmes prennent sur l'enfance un empire aussi vaste qu'il est peu admiré. Rien n'égale l'intelligence du jeune âge, comme rien n'égale sa sensibilité. Or, je ne sais si la supériorité d'un homme, en quelque genre que ce soit, est autre chose que le développement non interrompu de ce commerce divinement pur dont il se souvient à peine, ou bien le retour franc et décidé à ses impressions, aussi lointainement vraies, aussi pleines de salut que l'est toujours la conscience de ce que l'on est. Qu'est-ce que l'élévation, la gloire, la puissance, si ce n'est le resplendissement de la physionomie de l'âme? Et cette âme n'est-elle pas en nous, ce qui est le plus nous-mêmes? Et cette essence de notre être, ce principe d'unité de nos futures actions, cette originalité commencée, ne sont-ils pas confiés à l'instinct maternel? N'est-ce pas lui qui veut le premier les voir vivre, s'épandre et se dessiner? C'est en se posant sur notre âme que l'âme maternelle y porte chaleur et mouvement. Ces paroles qui sont tout amour, ces regards qui sont tout amour, ces choses sans nom qui sont tout amour, cherchent et vont dégager dans l'enfance ce qui fera plus tard le grand homme, le vrai brave, l'amant sublime, l'artiste inspiré. C'est par tout cela que la véritable beauté de l'âme se détache et tend à se succéder en se surpassant. C'est par tout cela que nous arrivons, par un bond de la pensée, de la nuit au jour, de la nullité d'une première existence à la pleine et riche possession de tout ce qui constitue la vie sociale. Il y aurait un beau livre à faire là-dessus. Je voudrais que l'on peignît les influences nourricières de l'amour et de la piété domestique, et que pour y mettre le dernier trait, on y comparât les influences des maîtres en tout genre. Ce serait chose curieuse. Pour peu que la matière fût en bonne main, nous verrions, dans le tableau de ces contrastes, une révélation moitié burlesque, moitié sublime. D'un côté, la nature serait prise sur le fait, menée à bien, ennoblie, comme tout ce que le cœur se mêle de gouverner. L'enfance, placée sous l'œil d'une philosophie qui mérite un plus haut nom, puisqu'elle est un sentiment. Et s'essayant sous des formes délicieuses à tout ce qui alimente et fait agir les facultés morales, l'esprit, l'indépendance, la recherche de l'inconnu, le privilège si mal respecté plus tard de croire et de prouver qu'il n'est esclave de rien, ni d'une autorité, ni d'une réputation, ni d'un pédantisme, ni même d'aucune liberté. D'un autre côté, en regard de ces bienfaits maternels, dont la conservation ou le recouvrement sont toujours ce qu'il y a de mieux en nous, on verrait la profonde impuissance des savants, des rhéteurs, des métaphysiciens, voire des mêmes habiles de toutes sortes, de ces hommes ennemis de tout ce qu'ils croient faire, nés pour stériliser indéfiniment ce qu'ils veulent rendre fertile. On les verrait réduisant la jeunesse à reculer vers l'enfance, malgré l'instinct de progrès qui se trahit dans le corps et dans l'âme de l'homme, ou bien se faner misérablement sous la fausse lumière et sous la chaleur plus fausse qu'on s'avise de lui distribuer. Le monde est plein de gens qui ne savent ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils peuvent, ni ce qu'ils désirent. Fats, flâneurs, sophistes, impudents, timides, une foule d'hommes vont, viennent, sans but, sans allure, sans aisance. Ils sont là, jetés par le hasard, repris par le hasard, n'appartenant ni à votre passé, ni à votre avenir, justement parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes. Ne serait-ce point que leur vie est manquée? Et ce malheur date-t-il de leur naissance ou bien est-il le fruit d'une éducation faite à rebours? N'en doutez pas, les médiocrités qui foisonnent ici-bas, les âmes valétudinaires qui offensent la santé des âmes bien portantes, les gens déplacés, ces hors-d'œuvre de l'humanité qui se multiplient à faire peur, sont à présent faits au monde par les instituteurs, les arbitres des règles, les esprits exercés, les juges officiels. Trouvez, je vous prie, ou plutôt cherchez-moi, une espèce de sot qui ne puisse se réclamer de cette paternité. Leibniz répondait de tout en Europe si on l'avait confié à la jeunesse. Ce n'était pas si mal. Il était savant, il est vrai, mais à cela, il y avait un remède. C'était son génie. Homme religieux et simple, il n'eût pas manqué de rappeler la jeunesse à sa dignité primitive. Il aimait à réunir des enfants, à les voir s'ébattre, étinceler de vie, déployer dans leurs mouvements la liberté de leur âme, cette liberté née du milieu de notre être, de ce point de lumière intérieure qui n'est pourtant pas nous, mais qui est Dieu lui-même entrevu dans son sanctuaire. Leibniz se prenait à penser par le cœur, à embrasser la multiplicité de rôles qu'il remplirait un jour. Il les rendait heureux pour un moment, pour mettre en relief leurs diverses aptitudes, sachant bien que les leçons tristes et sèches n'apprennent rien, si ce n'est à souffrir, en dépit du Créateur. Il eut donc fait pour Gaspard ce qu'on le faisait à Nuremberg. Il se fut débarrassé de son génie en suivant la marche enfantine de ce jeune homme vers le monde réel. La faiblesse, l'innocence, la naïveté ont un charme puissant pour les hommes supérieurs. Impatients de tout ce qu'ils savent, ils se complaisent à tout ignorer par moments et à redescendre dans cet état mystérieux et béni où l'âme nouvellement née, seule à seule avec son auteur, accepte à peine la vie qui lui vient de toute autre part et rentre sans cesse sous le je ne sais quel invisible abri, avec ses anxiétés, avec son bien-être, avec un redoublement d'amour de tout ce qu'elle fait. Gaspard inspirait un intérêt profond. La simplicité céleste de son cœur, exprimée par toute sa contenance, lui donnait un genre de beauté si pure, si étranger au sens, qu'on croyait la découvrir sans leur secours. Ce n'était plus un corps inerte dont les mouvements cessaient pour des journées entières ou se montraient douteux et contradictoires. Sa physionomie avait acquis une signification. Sa voix, quoique souvent rebelle à la pensée, s'était assouplie et rendait souvent par la parole et toujours par l'accent les accidents de son cœur et de son intelligence. Il souriait, et le sourire, ce caractère si digne de méditation, refusé à tout autre animal, avait dans les traits de Gaspard des nuances d'une ravissante délicatesse. C'était le reflet d'une âme où l'homme n'a rien gâté encore, parce qu'il n'a rien fait de rien mis. Mélancolie, bonheur, amour du vrai, tels étaient les sens divers qu'on donnait à son sourire. Souvent même, après en avoir joui tout amicalement, tout saintement, on perdait toutes les idées que ce sourire avait traduites. Par un de ces heureux hasards qui nous font penser comme ne pensant pas, sentir avec autre chose que le cœur, voir sans le secours des yeux, la présence de Gaspard, le pouvoir seul de ces muets transports, vous plongeait avec lui dans l'infini. Son regard, image parfaite d'une âme parfaite, vous atteignait jusqu'au fond de votre être, et là vous retrouviez, revêtu de la lumière divine, ces vérités sans nombre et sans prix, scellées par le Créateur en vous, hors de vous, dans le ciel, sur la terre, dans l'ensemble et dans les détails de la vie sociale, et qui nous est donné de contenir toutes, chaque fois que nous admettons Dieu en nous. En regardant Gaspard, on échappait aux allusions les plus ordinaires, et on se surprenait avec lui à être simplement docile, pur, comme si on eût été aussi au premier essai social. Il y avait dans ces deux dispositions quelque chose de sacré dont on ne se défendait pas. À mesure que Gaspard entrait dans les pensées humaines, il devenait plus cher à sa famille adoptive. Il en resserrait les liens par cette puissance accordée à l'enfance de porter autour d'elle la grâce et la force que son innocence possède sans le savoir. Après avoir eu pour maître toutes les personnes qu'il avait eues pour amies, il se trouva qu'à son tour, il leur apprenait bien des choses. À sa vie première, qui n'était pas une vie, avait succédé un certain réveil. Oh, ce n'était pas encore la raison dans sa plénitude, mais c'était déjà l'instinct avec toute sa pureté. Il lui échappait des traits qui valaient toute une science acquise. Semblable encore à l'enfant dans le progrès de tout son être, il redressait le sens à bien des gens, sans autre habileté que le naturel. Exempt de nos préjugés, Gaspard arrivait chez les hommes avec une ignorance d'erreur qui compensait en lui l'ignorance de la vérité. Il n'est pas clair qu'on acquiert par nous plus d'idées qu'on en oublie. Si Gaspard avait manqué de leçons pendant bien des années, il n'en avait pas reçu de fausses ou de ridicules, et c'était beaucoup. Ce que nous appelons nos idées et notre savoir eût été pour Gaspard un joug et rien de plus peut-être. Son enfance, cultivée à notre manière, eût été plus incurable, plus tristement faite à l'erreur, qu'au sortir de cette existence nulle et voilée, où toute action, et même celle du Créateur, avait été suspendue. Désormais, Gaspard prenait rang parmi les hommes. Il avait beaucoup à demander et beaucoup à offrir. Il pensait enfin. Il se trouvait un cœur, il recevait des impulsions de toute nature. Quelque éloigné qu'il fût de toute son individualité, quoiqu'il ne fût encore que l'ombre de lui-même, la vie, la vérité, l'appel de l'avenir étaient en lui tout éclatants. C'était plaisir de le voir abîmé dans ses rêveries, sonder ses invisibles abîmes, ces mystères infinis qui entourent l'âme humaine, quelque part qu'elle recule ou qu'elle avance. Avec ce goût de l'inconnu, Gaspard poussait à travers bien des vérités les esprits les plus vulgaires. Il marchait au milieu des immobiles. Gaspard ne savait rien, mais il voulait savoir. Il rendait sainte et magnifique, par ses désirs, par ses efforts, cette science de la vie qui lui manquait encore et que les autres possédaient trop commodément pour la relever. En contemplant la lutte de cette âme contre ses ignorances, on découvrait tout le domaine de notre pensée. Grâce à Gaspard, on comprenait que l'infini est partout, à commencer par des milliers de rien. Il réfléchissait sur la nature de la famille et se doutait que la famille était une merveilleuse conception du Créateur. Il pleurait d'admiration en acquérant une idée d'ordre, de mœurs, de bienséance. Et voilà qu'on se disait « Oh, mais ces choses sont grandes et quelque peu divines, bien que jamais nous n'en aurions jamais tenu compte. Ce qu'on était, ce qu'on savait, ce qu'on voulait ici-bas, tout cela se devinait, se développait sans mesure, dès qu'on voyait Gaspard, non plus comme un objet rare et mystérieux, mais comme un être de notre nature, resté en dehors de sa d'elle, et la reconnaissant à distance, aussi merveilleuse, aussi sublime que vous la voyez en effet, avant d'avoir fait le dernier pas vers elle. » Un jour, Gaspard était plus absorbé que de coutume. Quelques têtes légères en auguraient mal. Au lieu de cette naïveté sublime qui le caractérisait, on l'avait trouvé impassible, stupide et comme vaincu par un immense sommeil. Selon l'usage, personne ne se faisait justice. On ne se demandait pas si l'air anéanti de Gaspard était une preuve d'animalité ou bien si le pauvre jeune homme était là et rendu d'avoir écouté des sottises. Rien n'est plaisant, ou si vous voulez, rien n'est triste, comme ces sortes de méprises. Celui qui en est l'objet passe d'un supplice à un autre. On l'ennuie d'abord et on l'ennuie ensuite. Tant qu'on lui a prêté quelque esprit, on s'est dispensé d'en avoir, on a été fade, sec, niais, à qui mieux mieux. Car chaque qualité qu'on veut choyer dans les autres nous met à même de prouver qu'elle nous manque. Mais ce mal, une fois fait, tant à nous qu'au prochain, nous ne tenons pas quitte. Nos importunités l'avaient puni de vouloir se passer de nous. Nous l'abandonnerons à l'instant où, devenu aussi stupide que nous, il aurait besoin de nous. Gaspard était triste. Il souffrait. Sa physionomie, tour à tour éclairée par quelque chose d'intérieur et couverte d'une ombre indéfinissable, exprimait une disposition particulière, un de ces états mixtes où l'âme fuit et cherche mille choses, où la joie tourne à la tristesse, la vérité au doute, la vie et toute son intimité à une inexprimable agonie. Plongé dans ses pensées, le bon jeune homme oubliait tout, jusqu'à ses pensées mêmes. Son regard, après avoir jeté quelques éclats, retombait peu à peu dans le sommeil. On eût dit que son âme et sa paupière se fermaient en même temps. On avait beaucoup parlé et, contre sa coutume, il n'avait pas tenu compte des réponses, tout en faisant les questions. Sa voix, empreinte d'une mélancolie magnifique, avait gagné en accent ce qu'elle avait perdu en netteté et à mesure qu'elle se retirait du milieu des autres voix, abandonnant encore, çà et là, quelques paroles à l'attention des interlocuteurs et prenant par degrés ce caractère inexplicable qui fait que parfois, dans une parole comme dans un regard, on n'ose plus croire qu'il n'y ait rien de matériel. La compagnie s'était beaucoup agitée. Les enfants avaient sautillé, fait des gentillesses. On voulait qu'ils eussent été charmants. Ce n'était donc pas leur faute si tout cela n'avait servi à rien. Les femmes n'avaient rien négligé pour distraire Gaspard. Empressement, gaieté, attentions infinies, robes de couleur, bruit de la soie et du soulier qui crie, essence précieuse, mouchoir de batiste et toute l'innocente coquetterie des femmes honnêtes. Elles avaient essayé de tout, mais en vain. Gaspard, elle est peut-être passée pour un ingrat, et personne n'eût dit que non, pas même moi, peut-être. Quand vous êtes jugé par l'esprit des femmes, taisez-vous par pitié. Quand vous êtes jugé par leur cœur, taisez-vous par devoir. Gaspard se taisait, mais ce n'en était pas mieux. Les soins de mère, de sœur, d'amis que chaque femme lui prodiguait, ses fonctions diverses étaient réunies dans les moindres actes, dans les cadeaux offerts, dans des secours donnés à son inexpérience. Avoir chacune des femmes occupées de Gaspard, on l'eût prise pour plusieurs femmes. Dans la bienveillance de ces femmes, mêlée de hardiesse et de simplicité, on voyait toute une succession d'âmes, les divers âges du cœur, l'innocence qui ose parce qu'elle ignore, la chasteté timide dans ses soins parce qu'elle sait quelque chose, et la sagesse des derniers ans qui n'est plus ni craintive ni hardie parce qu'elle n'est que la sagesse. Le silence de Gaspard attristait les hommes et, comme pour consoler les femmes, on avait tâché de le tirer de sa rêverie, bien moins dans l'espoir d'y réussir que dans le dessein d'en prouver l'impossibilité. Les jeunes gens perdirent leur peine comme les vieillards. Ni la pétulance, ni le calme, ni les propos joyeux, ni les graves leçons n'éveillèrent Gaspard. Il était décidé que ce jour-là, rien ne toucherait. Tout le monde s'était mis en frais, à l'exception d'une seule personne. C'était l'instituteur de Gaspard, homme de sens, mieux que cela, homme de cœur. Quoique instruit jusqu'à l'érudition, sa rare intelligence avait cette indépendance, cette naïveté de mouvement qui n'appartient qu'aux âmes exemptes du triste fardeau de la science. Il laissa faire les importuns. Il savait bien qu'il finirait par se lasser de Gaspard. Avez-vous quelquefois compris un homme qu'on ne comprenait pas? Avez-vous joui de votre découverte? Au moment où les amours-propres, succédant à la bienveillance, se liguaient contre lui sans le dire, accumulaient leur ennui pour exaucer leur dédain, vous est-il arrivé de réclamer pour la victime et de doubler votre intérêt pour elle par votre pitié pour les autres? Gaspard, malgré son insensibilité, n'était une énigme parce qu'on le voulait bien. L'instituteur le pénétrait. Oh, il n'avait pas songé à faire la bile. Il avait souri des efforts des hommes et des femmes. Quelque chose lui disait que Gaspard l'écouterait, lui répondrait, mettrait toute son âme à sa merci. Rien ne vous rend seul comme une société factice. Alors, plus que jamais, votre cœur veut du repos, votre pensée du silence, tout votre être l'affranchissement. Alors vous n'avez rien à demander, par contre rien à pardonner, pas même l'amitié qu'on vous témoigne. Vous n'avez qu'un seul besoin, celui d'oublier les autres. Ils n'ont qu'un devoir, celui de vous absoudre. L'instituteur en prit son parti. Il laissa la compagnie s'épuiser, revenir à la charge, en finir une bonne fois et se retirer enfin, mécontent de Gaspard et persuadé qu'on n'en ferait jamais rien. Il ne s'agissait cependant que de savoir l'interroger. C'était par une belle soirée d'hiver. La famille adoptive de Gaspard, restée seule près de lui, se livrait à des jeux enfantins, entremêlés de cette gravité douce qui varie presque invisiblement les scènes de la vie domestique. La paix de ces âmes était merveilleuse. C'était des finesses que le cœur désavouait à temps et qui devenaient ainsi des épanchements de bonhomie. C'était des gaucheries, des malentendus, des embarras accompagnés d'une grâce bien supérieure à celle qui frappe les regards et d'autant plus délicieuse qu'elle échappe en un sens pendant qu'on la saisit dans un autre. Si les plaisirs de famille sont si vrais, c'est qu'il leur manque assez de choses pour qu'on ne sache gré de les goûter encore. Il faut qu'on s'estime en proportion de ses jouissances. Pour s'ennoblir par elles, il faut qu'on puisse se dire J'en ai bien voulu. Au milieu de tout cela, Gaspard, rêveur, isolé en pensée, ne semblait pourtant pas perdu. Il ne vivait que par l'âme. Mais ces bonnes gens étaient presque là. Leurs entretiens, leurs mouvements n'étaient que ce qu'il fallait pour porter et rapporter leurs pensées. On se parlait bien plus du cœur que de la voix. Gaspard eût pu rester pensif tant qu'il aurait voulu, sans gêner les allées et venues secrètes de ses âmes. Elle s'entendait avec la sienne, arrivant comme elle et sans s'en douter, plus qu'elle, à une rêverie sublime. Accord inexprimable, bienheureux silence, l'arrière-vie de l'homme sur la terre. Dans ce moment, Gaspard et cette famille, avant de s'être demandé de quoi il était question pour tous, s'élevaient vers la même pensée, recevaient la même influence. Ils allaient bientôt voir où ils tendaient et les admirables voies qui les avaient tous conduits à leur but. Gaspard, sous son silence et son insensibilité, cachait aux autres et à lui-même un plein réveil d'idées et de sentiments. À tout cela, il ne manquait que des noms. Une parole, dite à propos par l'instituteur, pouvait révéler ces choses qui ne demandaient qu'à se reproduire. Gaspard, deviné à un degré quelconque, serait sorti de lui-même comme par enchantement. Il touchait à une crise décisive. Cette âme s'ouvrirait enfin, et dès lors seulement, elle prendrait date dans la vie. D'un autre côté, la bonne et pieuse famille, longtemps impuissante à former Gaspard, à secouer ses restes d'enfance, se sentait plus affectueuse, plus mère que jamais. De douces larmes coulaient de tous les yeux. Personne n'avait senti les siennes couler. Elles venaient si lointainement du cœur. L'idée de Gaspard restait derrière les autres idées dans chaque esprit, avait dès lors le charme du mystère. C'était pour chacun une inspiration spéciale, une manière de vouloir mieux que les autres. Tous attendaient, sans la rater, l'occasion de s'ouvrir là-dessus. Un même pressentiment régnait parmi eux. Il les avertissait que Gaspard allait bientôt commencer une véritable vie, si l'on donnait à son âme ce qu'elle semblait prête à recevoir. Cette scène, moitié silencieuse, moitié parlée, moitié extérieure, moitié invisible, était contemplée par l'instituteur, non pas avec un plaisir de philosophe, mais avec un sentiment d'artiste. C'était dommage d'y rien changer, même en mieux. Il le fallait pourtant. Gaspard pouvait retomber pour longtemps dans son état si on ne profitait pas du moment. Son air absorbé n'annonçait ni stupidité ni fatigue. C'était plutôt un repos mêlé d'alarmes, une halte de l'âme avant de se jeter dans l'infini, une sorte d'hésitation à se donner pleine naissance. Tout était prêt en lui. L'instituteur ne différa plus. Pour achever l'œuvre secrète de la divinité, il exécuta un projet longtemps nourri. Il voulait occuper à la fois toutes les pensées de Gaspard sans les étourdir et le conduire par une impression aussi douce que vaste à entrer dans la plénitude de l'activité humaine. Il voulait encore se juger lui-même en se comparant cette fois à Gaspard. C'était la voix de Dieu qu'il allait faire entendre. C'était un spectacle fait pour le cœur de l'homme qu'il allait montrer et contempler à la fois. Il prit Gaspard par la main. Sans l'avertir de son intention, il sortit tout à coup, suivi de sa famille, dans la campagne, et là, immobile, muet, montrant à Gaspard les cieux admirablement étoilés, il attendit. La nuit était belle, on n'entendait aucun bruit. Seulement quelques souffles d'air traversaient les branches des arbres dépouillés par l'automne. Tout était désert. Aucune autre voix que celle de l'Éternel, aucun autre mouvement que celui de la pensée humaine. Gaspard n'avait pas témoigné de surprise. Son extase était en même temps violente et calme. Ses pensées n'avaient point paru changer de cours quand on lui avait montré le ciel. Seulement, elles s'étaient reconnues dès ce moment. Elles étaient sorties d'une nuit profonde, mais dans cette nuit, elles avaient pris naissance et commencé à vivre pour le jour. La parole lui manqua. Sa figure était inspirée, éclairée par une lumière douteuse. Elle était comme l'ombre de son âme. Gaspard se laissait aller vers Dieu avant même d'en savoir le nom. Un instinct céleste l'élevait au-dessus des sens. Il avait retrouvé tout son être, enfin. Et pendant qu'il se livrait à de silencieux transports, la famille de l'instituteur avait aussi les siens. Sous l'empire d'une seule et même pensée, ces âmes se trouvaient toutes ralliées. Cette harmonie pouvait se passer de paroles. Émue, éclairée, agitée diversement, suivant l'âge et le sexe, ces bonnes gens se comprenaient les uns les autres comme si Dieu, qui parlait à tous ces cœurs, eût encore rapporté à chacun d'eux tout ce que les autres avaient à lui dire. Nous avons tous vu pareille chose. Cette union qui se forme entre nos âmes, tantôt par une alliance de douleur, tantôt par un concours de jouissance, nous la connaissons tous. Elle est mystérieuse autant que belle. Belle parce qu'elle vient du ciel. Mystérieuse parce qu'elle vient du ciel. Dans la solennité de cette heure d'extase, qui de nous n'a pas vécu avec un surcroît de réalité? Qui de nous n'a pas mieux saisi les rapports de l'homme avec l'homme et commencé dès lors à s'orienter au milieu du temps et du changement? Cela vous est arrivé, à vous et à moi. Si vous l'avez oublié, voici l'époque. Vous étiez un jour plus frivole que de coutume. Rien ne fixait votre esprit, vous ne sembliez être ni vous-même ni un autre. Votre légèreté était celle du premier vol de l'âme parmi les erreurs et les vérités de la vie. Vous en étiez à l'indifférence et à la curiosité d'un début. Vous que l'âge, les vicissitudes, l'amitié avaient dû depuis longtemps rendre mélancolique. Et comme il convient à votre âme immortelle, à notre âme étonnée et fatiguée d'être mêlée d'abord à ce qui finira. Je souffrais, moi, et je ne voulais pas souffrir seul. Je vous souhaitais ma douleur, parce qu'elle était fière. La société me faisait blessure sur blessure, vous prodiguant sourire et regard. La société entière était comme une barrière entre nous. Vous aviez trop à vous en louer. Rien ne vous préparait à aimer ses rigueurs. Maintenant, vous vous le rappelez, n'est-ce pas? Un grand spectacle vous imprima tout à coup les plus intimes pensées. Une voix qui n'est pas de l'homme se fit entendre à vous. À la vue d'une multitude passionnée, terrible, sublime, vous tressaillîtes et quelque chose comme du dévouement et de l'orgueil s'éveilla tout à coup dans votre âme. Je fus compris de vous. Vous sûtes pourquoi je combattais, pourquoi j'étais jaloux de ma tristesse. Je vous vis homme enfin, prêt aux grandes choses, prenant la vie au sérieux et sentant qu'on est ici-bas pour tous les hommes, excepté pour soi-même. Une autre fois, nous nous devinâmes encore. Là, de toutes choses, épuisées de vie morale, éloignés de la divinité par tout ce qui nous était venu des hommes, nous nous prenions à gémir encore. Nos années, ces années si rares, nous semblaient bien nombreuses. Le charme présent des souffrances passées, notre supériorité dans la science de la douleur, allait devenir un parti pris, un niais refus de quelque joie du ciel. Ce jour-là, c'est vous qui deviez m'éclairer. Nous nous promenâmes dans la campagne, muets, calmes, laissant notre cœur se dégager lui-même. C'était sur les bords de la mer. Les vagues, cachées au loin sous les ombres du ciel, venaient mourir, elles et leurs grandes voix, au pied des falaises. Le bruit lui-même avait quelque chose du silence. L'obscurité était incertaine. Tout apaisait notre âme, tout nous affranchissait d'émotions artificielles. Nous n'aurions plus déjà à garder d'amertume. En présence de l'infini, le cœur se résout à être grand. Des conventions avec lui-même ne lui vont pas plus que les systèmes de l'intelligence. Il faut qu'il cède n'importe à quoi. La majesté de Dieu l'envahit avant qu'il y songe bien. Il est touché, il s'élance, il arrive à son élément. Et quels pleurs nous versions! Oui, des pleurs en vérité. La paix nous venait de toutes parts. Nous étions soulagés de nos années et de toutes celles qui nous séparaient de l'enfance. Et retournant à la naïveté, aux émotions faciles, à ce que Dieu avait fait de notre cœur avant les leçons de l'homme, nous étions dignes de nous attendrir avant d'en inventer la raison. Livrés tous deux aux mêmes pensées, nous appartenions davantage. Nous revenions parmi les hommes, non plus pour faire nombre avec eux, mais pour en resserrer la famille, pour nous reprendre à la vie comme deux âmes rendues à la liberté originelle. Dieu, contemplé dans ses œuvres, avait versé en nous une joie secrète et pleine de force. L'espérance, les grands instincts du cœur, l'orgueil repentant, nous ramenaient aux choses humaines pour nous montrer notre tâche et notre avenir. Amitié, poésie, indépendance, tout recevait de notre changement un air nouveau. Nous étions retrempés les uns pour les autres. Nos forces iraient alors jusqu'où il plairait à Dieu. Notre histoire, c'est l'histoire de Gaspard et de sa famille adoptive. En présence de Dieu tout entier, ils acquéraient tout à coup la pleine liberté du sentiment. Dès ce moment, Gaspard embrassait tout. Il reportait toujours ses regards vers le ciel, à l'exemple de ses amis, ne trouvant pas autre chose à leur dire et recevant de leur part la même réponse. Après cette rêverie si unanime, ce qu'on avait prévu arriva. L'instituteur, par cette épreuve, avait changé toute chose autour de Gaspard. Quelque chose de suave et de puissant, comme l'action de Dieu même avait pénétré tous les cœurs. Gaspard venait de perdre l'étrangeté de son maintien. Il s'abandonnait. Il était enfant avec les enfants, gracieux avec les femmes, imposant avec les hommes faits. Tout en lui était déjà concevable, facile, social, et cette merveille cachait son auteur. Son âme, rendue à sa dignité, en admettant silencieusement le grand être, lui empruntait une étincelle de vie et toutes ses facultés surgissaient à la fois, intelligence, amour, imagination. Sa physionomie, comme voilée de plusieurs ombres, les dissipait successivement pour briller enfin de tout l'éclat de son âme. Il avait de l'aisance, de la vérité dans les mouvements. La haute et religieuse idée qu'on lui avait fait naître, au lieu de s'affaiblir en se mêlant à des impressions ordinaires, ennoblissait celles-ci en les rapportant au ciel. Sa famille adoptive avait aussi gagné à cette scène. Tout s'y était passé simplement. Personne n'avait fait de l'esprit ou du sentiment. On s'était dit ce qu'on avait dans le cœur. Et Gaspard, présenté, pour ainsi dire, à l'être suprême par ses âmes franches et pures, semblait leur être rendu par lui pour recevoir des soins de plus en plus sacrés. Le changement soudain de Gaspard leur servait de leçon. Il y avait eu là ni raffinement d'habileté, ni effort de patience. Gaspard avait senti, il avait conçu, il avait goûté. Il était désormais en bonne voie. On avait souvent pris de la peine et perdu son temps pour l'y faire entrer. On s'était tourmenté à l'infini. Et voici qu'en un clin d'œil, tout allait à bien sans que personne dût en tirer vanité. À présent, tous ces instituteurs savaient très bien ce qu'ils avaient à faire. À l'avenir, on laisserait agir la nature. Chacun abrégerait les leçons autant que possible. Et pourquoi y songeait-on si tard? Cet homme restait seul jusque-là, quoique entouré de ses semblables, n'avait dû entrer dans l'immense famille que de la bonne et vraie manière. Ce n'était ni des noms propres qu'il avait à apprendre, ni des misères de convention qu'il lui fallait noter, ni des recettes de civilisation qu'il devait s'appliquer. Abandonné avec son instinct, avec moins que cela encore aux influences sociales, l'intelligence de Gaspard ne pouvait soulever son sommeil sans être secondé par quelque chose de mieux que des méthodes. À l'âme humaine, ce qu'il faut avant tout, c'est d'être, c'est d'aller, c'est de croire en elle-même. Et cela, qu'est-ce autre chose que de remonter vers la vie, que de se tourner sans cesse vers l'infini d'où elle est venue sur la terre, tout en entrant dans notre monde à nous? Qu'est-ce que l'intelligence du temps, des choses, des hommes, de la société enfin, si ce n'est Dieu et l'immortalité contemplée à travers toute cette ombre? Gaspard prenait rang dans le monde connu à partir de cette heure. Les liens invisibles de l'humanité, et les seuls qui soient quelque chose, allaient acquérir à ses yeux toute leur valeur. Élevé par toutes les pensées jusqu'à Dieu, il le reconnaissait comme le seul être qui l'attira tout entier. Force lui serait maintenant d'expliquer tout par lui et de réunir dans cette vue, comme dans un amour voisin de cette grande idée, les choses éparses et contraires que l'usage nous fait prendre pour un tout, puisqu'il les exprime souvent par un seul terme. Ces noms de vie humaine, de société, de nature, auraient désormais pour Gaspard leur vaste et noble sens. Ils dépasseraient par la portée de l'âme les limites apparentes de toute chose. Pour comprendre ce qui se voit ici-bas, il faut demander le mot de l'énigme à qui l'a proposé. Gaspard aura réponse à tout. L'épreuve dont il sortait si heureusement fit époque. Il ne fut pas inspiré au prophète, et même à première vue, bien des gens purent encore le prendre pour un homme à jamais retardé. Mais ses progrès n'en étaient que plus profonds. Il avait ce calme et cette simplicité qui abusent le vulgaire. Sa vie s'étendait de proche en proche. Elle atteignait, pour ne plus s'en départir, tous les rapports naturels, à commencer bien entendu par ceux qui unissent les cœurs. Dans son affection pour son instituteur, il comprenait sa famille, moins encore les membres reconnus que les personnes qui avaient avec elle analogie de pensée ou de vertu. Dans ce cercle d'affection, il faisait entrer bientôt la ville entière où elles étaient fixées par goût, par habitude ou par d'autres raisons. Il ajoutait à lui-même tout ce qu'il aimait, et par cette loi magnifique que l'homme n'a pas faite, en se donnant de plus en plus aux autres, à mesure que son âme croissait en richesse et en besoin, il était d'autant plus lui qu'il s'oubliait davantage. Il grandissait à l'infini, tout en se laissant entourer par les choses humaines. Il y avait pourtant une chose désespérante. Dieu venait de s'incliner vers l'âme de Gaspard. Le bon jeune homme avait délié ses plus secrètes facultés. Il comprenait l'ordre moral en se saisissant de son auteur, et toutes les affections humaines lui venaient à la fois comme choses anciennes et familières. Et néanmoins, quand on lui parlait de tout cela, Son indifférence était plus grande qu'auparavant. Il ne montrait ni curiosité, ni reconnaissance. Il avait refusé de cet appareil, et bien des gens allaient déclarant que c'en était fait de son intelligence. Cependant, Gaspard faisait bon emploi de tout ce qu'il avait reçu du ciel. Ses goûts avaient une teinte religieuse. Il était plus que jamais touché des soins de ses amis. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il aimait à voir était sage, pur, céleste, et Dieu, avec ce qui en découle dans les choses de la vie, était pour son âme le but d'un éternel retour. Gaspard était comme jaloux de ses propres pensées. Il ne lui plaisait pas que d'autres les exprimassent, ou même qu'ils eussent l'air d'en avoir été semblables. La religion, la vertu, la vérité avaient pour lui le charme qu'elles auraient pour l'homme, si celui qui les a créées les lui donnait de première main. Quelle que fût la candeur de ses discours, il y avait toujours là quelque chose d'appris et de convenu. Par un langage parfait, il faudrait moins l'art que les hommes possèdent que la simplicité dont l'enfance a le privilège. Ce qui ne vient pas d'elle, en fût-il bien rapproché, serait éloquemment condamné par sa voix si le ciel avait mis sur ses lèvres tout ce qu'il a déposé dans son cœur. Rien n'égalait le bon sens de Gaspard. C'était par là qu'il dérangeait les idées des autres, bien loin de se laisser dominer par elles. Il semblait parfois que cette pureté de raison serait trop à part et que Gaspard, incapable de goûter le vrai pour peu qu'il fût retouché et gâté par les hommes, deviendrait une sorte de rareté incommode. Mais il y avait remède à cela. Gaspard, épris d'abord de la perfection, était conduit à elle par toute autre chose que les dires de la foule. S'en séparant ainsi, il apercevrait bientôt des raisons qui la lui faisaient quitter, et il la connaîtrait d'autant mieux qu'il ne lui appartiendrait pas. Telle devait être pourtant la situation de Gaspard. À la distance où il se tenait involontairement, il voyait les hommes et les choses telles qu'ils étaient, tandis que les meilleurs juges, placés quoi qu'ils fissent au milieu des préjugés et des habitudes, des désirs de tous, n'y découvraient que ce qu'ils y mettaient eux-mêmes. C'était chose curieuse de calculer les besoins de Gaspard. Il tenait aux objets qui remplissent la vie, non comme un homme qui parvient enfin, mais comme un être supérieur qui la quitte déjà. Oh, ce n'était pas pour lui un terme, mais un point de départ. Et pourtant, Gaspard n'était ni guindé, ni important en fait de religion. Il se prêtait à nos devoirs extérieurs. Il aimait obligeamment ce qu'aimaient les hommes. Mais la dignité de l'âme se montrait dans toutes ses concessions. Une immense pitié, aussi dépourvue d'amertume que de prétention, se laissait voir dans ses rapports avec la plupart des hommes. Il sentait en lui-même, avec l'indépendance d'une nature immortelle, l'action souveraine d'une intelligence qui avait enfanté la sienne et achèverait, un jour, de la délivrer de l'erreur et de l'ignorance. Il pardonnait aux hommes d'ignorer ce bienfait. Placé sous des influences assez multipliées, assez puissantes pour vaincre un moment celle du ciel, les hommes devaient, selon le cœur de Gaspard, être à l'abri de la vérité et de la grandeur, comme il était lui-même à l'abri de tout ce qui est faux et mesquin. Dans chacun d'eux, quelque accompli qu'il fût, on trouvait tel homme. Et dans Gaspard, quel que fût l'enfant de ses facultés, on voyait l'homme.